Cascado, la cascade de l'info.
De l'info.
Cascado, la cascade de l'info.
Cascado, la cascade de l'info.
Écran, mon bel écran, est une émission en deux parties réalisée avec les jeunes de la MJC du LERM.
Est-ce que vous pouvez nous dire sur Internet comment est-ce qu'on peut savoir qu'un site est sérieux ou pas quand on cherche une information ?
Il faut qu'il y ait marqué l'auteur, le jour où il a mis, l'année, voilà, je sais pas trop après.
Où est-ce qu'on peut aller avoir des renseignements sur le site, connaître le sérieux du site ?
À propos.
Dans le à propos ou un autre endroit ?
Qui sommes-nous ?
Sommes-nous, voilà, les mentions légales dans cet endroit-là. Alors vous les filles, comment vous faites pour trier l'information sur Internet ? Comment vous faites d'ailleurs, tout simplement pour aller chercher de l'information sur Internet d'abord ?
Bah moi j'écris le truc, mais moi c'est pas bien ce que je fais parce que je prends le premier site que je vois.
Donc sur ton moteur de recherche, tu vas aller vers le premier site, ok.
Surtout sur Wikipédia.
Et tu tombes souvent sur Wikipédia, ok. Et toi ?
Moi ça dépend, des fois je fais un peu de tous les sites, je regarde tous les sites.
Et ouais, comment tu fais après pour trier l'info du coup ?
Moi je fais plus confiance à Wikipédia, je sais pas pourquoi.
D'accord, ok.
Moi aussi, je vais surtout sur Wikipédia.
Est-ce que vous croisez vos sources quand vous avez un doute un petit peu ?
Moi, des fois oui, des fois non, ça dépend.
Est-ce que vous êtes déjà fait avoir par des fausses infos sur Internet ?
Oui.
Vas-y, c'était quoi ?
Je crois que c'était à mon exposé. Il y avait marqué une date et en fait, c'était pas celle-là. C'était, par exemple, ils avaient dit, je crois, le 24 mai. Et en fait, c'était le 25.
Sur Wikipédia ?
Non, c'était le premier site, mais c'était pas Wikipédia, je sais plus lequel c'était.
Bon, du coup, qu'est-ce qu'on peut retenir ? C'est que peut-être, quand on va chercher sur Internet, est-ce qu'on reste sur le premier site ou est-ce qu'on essaye d'aller un peu plus loin ?
Il faut essayer d'aller un peu plus loin, oui.
Est-ce que vous, donc là, à chaque fois, vous allez sur le même moteur de recherche, j'imagine ? C'est quoi un moteur de recherche, rapidement ? Vas-y, tu le sais.
C'est Google.
Ouais, ça c'est le moteur de recherche le plus connu.
Safari.
Un navigateur, Safari.
Ah oui, c'est vrai.
Distinguez bien navigateur et moteur de recherche. Allez, on essaye d'en donner chacun un moteur de recherche.
Yahoo,
c'est un moteur de recherche, ok. Quelqu'un pour l'aider ? Est-ce que vous connaissez d'autres moteurs de recherche ?
Mozilla, non.
Navigateur. Bing. Et il y a aussi Quant et il y en a d'autres. Bah, merci les filles, on va appeler un autre groupe pour nous parler de, du coup, des mots-clés. Comment on cherche sur Internet avec des mots-clés ? Il y en a qui savent faire ça ? Donc présentez-vous s'il vous plaît.
Je m'appelle Léontine et j'ai 11 ans.
Je m'appelle Arthur et j'ai 12 ans.
Je m'appelle Timothée et j'ai 11 ans.
Je m'appelle Mathias Bossonneau et j'ai 11 ans.
Alors vous, comment vous faites pour chercher de l'information sur Internet ?
Bah déjà, il faut savoir ce qu'on cherche.
Bon, admettons, vous avez un sujet sur les rois de France. Qu'est-ce que vous allez marquer comme mots-clés ? Vous savez ce que c'est le système des mots-clés ?
Oui.
Vas-y.
Bah, si je veux savoir tous les noms des rois de France, je vais pas taper mot par mot. Je vais enlever les déterminants, les trucs comme ça.
Donc tu vas taper quoi, toi, par exemple ?
Nom roi de France.
Ok. Et là, après, une fois que vous avez fait ça, donc, est-ce que vous cherchez sur plusieurs moteurs de recherche ou toujours sur le même ?
Moi, toujours sur le même.
Lequel ?
Google.
Est-ce que parmi vous, il y en a qui cherchent sur d'autres moteurs de recherche, des fois ? Non ?
Non.
Non ? Vous essaierez, hein ? Parce qu'en fait, Google, il y a quelque temps, on ne l'utilisait pas. Hein ? C'est arrivé il y a maintenant peut-être 15 ans, mais il n'y a pas que ça comme moteur de recherche. Voilà. Et vous n'avez pas forcément les mêmes résultats quand vous changez de moteur de recherche. Vous savez pourquoi ça s'appelle un moteur de recherche ?
Oui.
Vas-y.
Bah parce que c'est un moteur qui cherche.
Cheval blanc d'Henri IV. Et en fait, c'est un système, c'est des petits robots qui balayent Internet et qui vont chercher des mots comme ça, qui référencent tous les mots qu'il y a dans sur les pages Internet. Et en fait, souvent, les sites qui reviennent en premier, ce sont les sites qui ont été les plus visités. Donc ça ne veut pas forcément dire que c'est les plus valables, mais ça veut dire que ce sont simplement les sites où les gens y sont allés le plus. Ok, il y a eu beaucoup de référencement également. Alors maintenant, donc, une fois que vous avez tapé vos mots-clés, comment vous faites après ? Donc en général, vous tombez sur quel site quand vous cherchez de l'information, vous ? Sur quoi si tu tapes nom roi de France, comment tu vas faire après ?
Je vais chercher ce qui correspond le mieux à ce que j'ai cherché en dessous du titre.
Ok. Alors, bah, par exemple, ça va être quoi? Parce que vous les connaissez, vous, tous, les noms des rois de France. Comment vous faites vous-même pour valider une information? Tu vas avoir donc, admettons, 3 millions de résultats à ta recherche. Tu prends quel site, là, qui apparaît?
Bah, je regarde le titre, si ça ça ressemble pas trop à ce que je cherche, et bah, j'envoie un autre, et ainsi de suite.
D'accord, donc tu vas...
Si pas, j'essaye de chercher autre chose.
Très bien. Donc, mademoiselle, elle va aller chercher les sites les plus pertinents en fonction du titre. Et vous, les garçons, comment vous faites?
Je sais pas. Bah, moi, je suis sur Wikipédia, plus souvent,
donc... D'accord. Donc toi, pour toi, Wikipédia, c'est fiable. Mmh. Et toi?
Ben moi, pareil, je vais sur Wikipédia. Si je trouve pas, donc j'ai plusieurs informations qui donnent pas les bons résultats sur Wikipédia, ben je vais sur un autre site.
Mmh. Ça veut dire que vous avez une bonne culture générale, vous, pour déterminer qu'est-ce qui est juste ou pas d'office. Parce que toi, dans ton cas, tu cherches les sites pertinents et après tu essayes de croiser tes sources un peu? Non, pas forcément. Et toi, jeune homme?
Moi, Wikipédia.
Wikipédia. Bon, bah, très bien. Alors, Wikipédia. Du coup, on va changer de groupe. Donc, jeunes gens, les nouveaux, présentez-vous. Et puis, on va parler de... D'abord, croiser ses sources et ensuite, Wikipédia.
Moi, je m'appelle Thomas et j'ai 11 ans.
Je m'appelle Sarah et j'ai 11 ans.
Je m'appelle Thomas et j'ai 11 ans.
Alors, vous êtes rassemblés ici pour d'abord nous expliquer comment est-ce qu'on croise ses sources sur Internet. Toi, apparemment, Sarah, tu le fais.
Ben, moi, au début, je vais sur Wikipédia et ensuite, ben, je vais sur d'autres sites qui me paraissent fiables et je regarde s'il y a les mêmes noms de rois, s'il y a les mêmes informations. Et s'il n'y a pas les mêmes informations, je vais encore dans d'autres sites.
Et comment est-ce qu'on voit qu'un site est sérieux dans ce cas-là? Là, on cherche, par exemple, des informations sur les rois de France. Tu vois, tu vas aller sur quel genre de site? En dehors de Wikipédia.
Bah, sur des sites où c'est peut-être des historiens ou des gens qui se connaissent en histoire, qui le font.
Voilà, donc on va aller vers des personnes qui nous semblent être des experts. Mais des fois, est-ce que c'est facile de déterminer ça, si quelqu'un est compétent pour parler d'un sujet ou pas? Vous y arrivez à tous les coups, vous, à déterminer ça? Non. Mais non, parce qu'il faut connaître les historiens. Enfin, il faut connaître des historiens. Il y a sa qualité, certes, mais des fois, c'est pas évident. Alors, et après, je me tourne vers vous parce que il y en a parmi vous qui sont pour ou contre Wikipédia. Alors, on va commencer par ceux qui trouvent que c'est pas bien. Qui trouve que Wikipédia, c'est pas ça?
Ben, c'est pas bien parce que déjà, on peut aller sur... C'est à rien d'aller sur Wikipédia parce qu'on peut... Il y a très bien presque le meilleur moteur de recherche au monde, Google. Donc, à quoi ça sert d'aller sur un autre moteur de recherche qui serait forcément des fois faux?
C'est intéressant ce que tu dis, mais alors Google, c'est un moteur de recherche. Wikipédia, c'est une encyclopédie participative. C'est pas tout à fait pareil. Alors, ok, donc toi tu dis, je préfère aller sur Google. Comment tu fais du coup? Là, je reprends mon exemple de le nom des rois de France. Qu'est-ce que tu vas mettre comme mot-clé? Comment tu vas savoir qu'un site est valable ou pas derrière?
Je vais voir si ça correspond à ce que je pense. Donc je vais aller sur plusieurs sites. Enfin, je vais aller sur plusieurs réponses.
D'accord. Mais comment toi tu valides? Ça veut dire que tu as déjà plus ou moins la réponse que tu cherches. Tu la connais déjà plus ou moins?
Non, je la connais pas. Mais je veux voir si c'est ma question exactement.
Ok. Qui était contre? Vas-y. Contre Wikipédia, donc.
Ben moi, je suis contre parce que ça m'est déjà arrivé 3 fois de trouver des mauvaises informations sur Wikipédia. Et par contre, quand je vais... Je sais pas, sur Google, comme l'a dit Thomas, ou Firefox, Mozilla, et bien ça marche.
Alors, je vais reprendre juste simplement Firefox et Mozilla, ce sont des navigateurs, donc c'est pas des sites, hein, c'est pas des plateformes qui produisent de l'information, hein, c'est des endroits, des portails en fait. Mmh. Et pareil pour Google, c'est un moteur de recherche. Mais dis-moi, c'est quoi les infos qui étaient pas bonnes les 3 fois là?
L'an dernier, je crois, c'était chez moi, je devais faire des recherches sur, des auteurs. Mmh. Et j'avais eu, un poème qui était écrit par quelqu'un. Alors qu'en fait, j'avais revérifié sur un autre, je sais plus sur quoi, et c'était pas les mêmes réponses.
Ah mince.
Et du coup, et puis après, j'ai demandé à mes parents et c'était... Voilà.
D'accord. Parce que là, j'allais te dire, avec 2 sites contradictoires, ça ne règle pas ton problème. Là,
oui,
tu es allé demander à quelqu'un d'autre encore.
Oui.
Ok. Qui est pour Wikipédia? Qui trouve ça bien?
Moi.
Toi, pourquoi?
parce que Wikipédia, c'est tu trouves de tout, mais ça répond presque à toutes tes questions. Donc, et à chaque fois que tu tapes quelque chose, il y a toujours Wikipédia, tu vois toujours Wikipédia.
Moi, je suis pour et contre, parce que sur Google, je trouve des informations. Par exemple, j'avais tapé, la dernière fois, c'était pour un exposé, et on devait faire un fait divers, et moi, je devais prendre des arbres, mais sans feuilles. Du coup, j'ai mis arbres nus.
Oui.
Et je suis tombée sur des trucs.
Du contenu inapproprié pour ton âge, oui. C'est ça ? D'accord.
Alors que sur Wikipédia, j'ai tapé la même chose et j'ai trouvé des arbres sans feuilles.
Ça, c'est pas tant un problème. Vous avez compris où est le problème, là ? C'est qu'il a pas, il a mal choisi ses mots-clés. Hein. C'est pas une histoire de Wikipédia ou quoi. Mais ta remarque est pertinente. Vas-y.
Sur Wikipédia, certaines fois, moi, ça m'est arrivé de marquer des informations, des mots-clés. Et il marque... cette page n'existe pas, vous la créez, donc on sait déjà que tout n'est pas forcément sur Wikipédia, puis nous, on peut écrire une page même si on est incompétent, qu'on ne connaît pas.
Alors, il y a des systèmes de modération, du coup, si vous marquez des grosses bêtises sur Wikipédia, elles seront quand même corrigées, sauf dans ton cas, là où tu as soulevé le cas d'un poème qui n'avait pas été attribué à son bon auteur. Ça, c'est un problème quand même. Après, toi, en ayant relevé l'erreur, tu aurais pu la corriger toi-même sur Wikipédia, par exemple.
Oui, mais à ce moment-là, je n'avais pas encore fait ma seconde recherche et je ne pouvais pas savoir. Après, je n'ai pas pensé à y revenir.
Vous connaissez Wikipédia ?
Wikipédia, c'est pour les plus petits. C'est le langage, il est plus facile à comprendre.
Et vous savez dans quel cadre c'est écrit, les articles sur Wikipédia ?
C'est écrit par des enseignants ou des enfants, je ne sais pas.
Alors, c'est écrit en classe par les groupes, les classes et leurs enseignants. Oui. Toi, tu t'en sers ?
Non.
Pour certains exposés, je m'en sers parce que le langage, il est plus simple à comprendre, donc c'est plus clair. Et puis, c'est surtout moins long. Il n'y a pas trois pages comme sur Wikipédia. Il y a une simple explication et ça suffit largement. Enfin.
Est-ce que vos profs vous ont déjà fait des remarques sur le fait qu'il ne faut pas copier-coller les choses sur Wikipédia ?
Oui.
Parce que ça se voit, ils connaissent Wikipédia, donc ils savent que lui-même, si le langage il est trop scientifique, ils sont sûrs que vous ne le connaissez pas.
Ben oui. Donc ne vous faites pas avoir, faites pas de copier-coller de Wikipédia, ça se remarque, c'est évident à toi.
Surtout quand on a un prof de technologie qui nous demande de faire une recherche et qu'on copie-colle sur Wikipédia, il nous dit c'est quoi ce mot, effacez-nous, et après on voit directement qu'on a copié-collé sur Wikipédia.
Et que vous n'avez pas compris ce que vous avez copié-collé, oui. A priori. Et oui, des fois c'est ça.
Bonjour Malena.
Bonjour.
Aujourd'hui, quel a été le sujet de la recherche ?
Le premier site web.
D'accord. Qui et quand a été publié le premier site web ?
L'auteur du premier site web est Tim Berners-Lee et il a été mis en ligne le 20 décembre 1990.
Quel a été le but premier de ce site web ?
Le but premier, c'est pour que des scientifiques s'échangent des informations instantanément.
Et où a été développé ce site web ?
À Meyrin, en Suisse.
Par qui a été développé le premier site web ?
Par le plus grand et prestigieux labo scientifique du monde, le CERN, Centre européen de recherche sur le nucléaire.
Comment s'appelait le premier site web ?
InfoCERN.ch.
Merci de votre attention.
Bonjour, alors aujourd'hui je suis accompagnée de Léa et Maïlis, nos deux invités. Donc aujourd'hui, on va parler de la date de la sortie de Google. Donc est-ce que vous savez quand Google est sorti ?
Google a été créé le 4 septembre 1998.
Et je voudrais savoir par qui a été créé Google ?
C'est donc Larry Page et Sergey Brin qui ont inventé Google.
Alors, je voudrais savoir ce que c'est Google.
Alors Google, c'est un site américain et c'est un moteur de recherche. Mais il en existe d'autres comme Chrome, Yahoo, Bing ou Quant.
Mais dis-moi, qu'est-ce que c'est un moteur de recherche ?
Un moteur de recherche permet, grâce à des mots-clés, de trouver de l'information sur Internet.
Merci d'être venu à cette émission. Je vous dis au revoir et à la prochaine.
Bonjour, je m'appelle Kaliane, j'ai 11 ans.
Bonjour, je m'appelle Jean et j'ai 11 ans.
Je m'appelle Maïlis et j'ai 11 ans.
Je m'appelle Manon et j'ai 11 ans.
Bon, moi je voudrais savoir revenir sur cette idée de, par exemple, donc vous cherchez une définition sur internet et puis vous ne trouvez pas quelque chose qui vous va. Vous sentez que c'est pas bon, voilà, vous êtes allé sur Wikipédia, vous n'avez pas bien compris ce qu'il disait. Comment vous faites alors après pour vous en sortir?
Moi je vais sur d'autres sites.
Mais comment tu sais qu'un site est bon ou pas derrière?
Je vérifie s'il y a un auteur, enfin je vérifie plusieurs sites.
Donc tu vas croiser tes sources?
Moi je demande à mes parents ou parfois, voir si je comprends mieux, je vais voir dans le dictionnaire.
Merci, j'attendais.
Je me demandais si à un moment ça allait sortir. Et toi comment tu fais?
Je regarde d'autres sites.
Ok, et toi?
Moi aussi je regarde d'autres sites.
Vous restez plutôt sur internet du coup pour croiser vos sources? Quelles peuvent être les sources d'informations qui existent et qui sont à votre disposition au collège, par exemple? Le? Et voilà, l'ancien, le dictionnaire, le version papier. Vous en servez un petit peu, là?
Oui.
Oui? Bien, super. Donc, c'est pas complètement tombé aux oubliettes. Et après, quelles sont les sources disponibles pour des jeunes comme vous? En dehors d'Internet, hein, parce qu'Internet, on a bien compris, mais il faut...
Les encyclopédies.
Les encyclopédies, ok. Quoi d'autre? On peut aller vers quoi pour avoir validé une information?
Des livres,
magazines, etc. Et puis, vous l'avez dit plusieurs fois, quand vous avez un doute, demandez conseil à vos parents, à votre entourage, à des personnes ressources. Qui au collège peut vous renseigner sur de la recherche d'informations?
Les professeurs.
Et quelqu'un en particulier, dans un endroit particulier? Voilà, la professeure documentaliste au CDI. Elle peut vous aider aussi, le ou la professeure. Hein. Du coup, là, si on reprend notre exemple, vous, ça vous est déjà arrivé de faire des recherches sur Internet et de vous tromper? Et d'avoir des erreurs, en fait? Ou pendant un exposé ou quelque chose comme ça?
Non.
Donc, du coup, c'est que toi, tu arrives à chaque fois à trouver, à taper les bons mots-clés et à trouver des sites Internet pertinents, c'est ça?
Non, ça dépend.
Et comment tu fais pour trier? Eh oui. Vous vous faites confiance en fait, vous faites confiance à votre ressenti par rapport à un site, c'est ça?
Oui.
Souvent, pour moi, il y a mes parents qui sont pas très loin pour m'aider et c'est plus facile, eux ils savent quel site est fiable.
Vous avez vu tout à l'heure dans les exemples qu'on donnait, on a vu que par exemple un site avec un nom aussi sérieux que scienceinfo.fr ne faisait que de la fake news. Donc qu'est-ce qui vous guide vous pour savoir si c'est vrai ou pas? C'est bizarre, moi j'ai l'impression que vous y allez un peu à vue quand même sur internet. Hein. Arrêtez-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que souvent vous allez vers les premiers résultats sur un seul moteur de recherche, vous ne croisez pas forcément vos sources et vous faites assez rapidement un balayage en vous disant « ça, ouais, ça m'a l'air vrai, ça m'a l'air faux, ça m'a l'air vrai, ça m'a l'air faux ». C'est comme ça que vous faites à peu près? Ou vous avez une autre méthode qui m'échappe?
Moi je pense que c'est celle-ci.
Je vous rassure, on est tous un peu feignants, hein, les adultes sont un peu pareils, hein, on ne va pas forcément croiser nos sources. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est soit vous avez une excellente culture générale, et du coup, vous savez, avec votre grande culture générale, vous dites « Ah non, ça, c'est faux, ça, c'est vrai, ça, c'est faux, ça, c'est vrai. » Bon, ce qui est possible. Hein, ou alors, c'est que des fois, peut-être, ça veut dire que potentiellement, vous pouvez tomber sur de la fausse info. Hein. Est-ce que vous connaissez le Garofi? Ça vous dit quelque chose? Le Gorafi, vous aviez vu cet article sur chocolatine et pain au chocolat?
Non, oui, c'était des fake news.
On écoute.
Dans une boulangerie, il y avait un client qui a demandé à la vendeuse du pain au chocolat. Et la vendeuse l'a tué parce qu'il avait dit pain au chocolat et pas chocolatine. Et ça a été vu de nombreuses fois sur Facebook.
Alors, c'était faux. Mais ça a fait un buzz pas croyable et ça a été partagé en effet des centaines de milliers de fois. Et il y a beaucoup de gens, on en parlait, ça a animé beaucoup de débats, il y a beaucoup de gens qui ont eu du mal à savoir si c'était vrai ou faux. Et donc en fait, et là par exemple, vous auriez tapé chocolatine au moment du buzz sur internet, ce serait arrivé dans les premiers résultats sur Google. Okay, et pourtant c'était complètement faux. Ce que je veux dire c'est que ça peut arriver encore aujourd'hui d'avoir affaire à des fausses infos.
Hello, today Teo has come to our studio and he's going to talk about DVDs.
Donc j'ai fait un peu ça sous forme de questionnaire. Donc je vous posais quelques questions à vous. Donc déjà, est-ce que vous savez à quoi sert un DVD ?
Non.
Non.
À lire des films ?
Oui.
Ah.
L'avantage d'avoir créé le DVD, c'est qu'il permet de stocker 7 fois plus, quasiment 7 fois plus de données que la VHS qu'il y avait à l'époque. Du coup, c'était une grande avancée au niveau des films. Il a été créé en 1995, décembre 1995. Ça a été créé par une collaboration entre plusieurs entreprises, donc en grande partie entre Philips, Sony, Toshiba et Panasonic. En France, le premier lecteur, il arrivait début 98. Donc, comme avantage, donc on a déjà la capacité de stockage qui est assez grande, ainsi que la qualité de l'image qui est vraiment supérieure par rapport à la VHS. Parce qu'on voyait que sur la VHS, l'image était un peu tremblotante, alors que là, sur le DVD, ça l'est pas. En 2006, la plupart des entreprises qui avaient créé le DVD ont eu comme idée de créer un peu une sorte d'amélioration du DVD, donc ils ont créé le DVD Blu-ray. Donc lui, il permet de stocker encore beaucoup plus. Donc là, en l'occurrence, c'est au niveau du DVD, on tournait autour de 5 gigas à peu près. Et là, on tourne avec le Blu-ray, on tourne plutôt avec 25 gigas.
Et vous saviez, vous les garçons, ce que c'était une VHS ? Vous avez déjà vu une VHS ?
Oui, pour moi, les VHS, à la base, c'était pour lire les musiques, on avait le...
C'était plus pour les magnétoscopes.
Et pour lire des films, je pensais en fait à la base, parce que c'était les Walkman. Les
cassettes. La cassette, c'est plus petit. Ouais. Et donc, ça servait, en effet, dans les Walkman, OK. Et après, la VHS, c'était la version un peu plus grosse, là, pour mettre dans les magnétoscopes. OK, mais c'est bien, ça, c'est intéressant, parce que, du coup, alors... On était sur le Blu-ray, ok. Alors, est-ce que le DVD, tu as d'autres questions à nous poser ou on rebalance ?
Pas spécialement.
Alors moi j'ai une question maintenant, est-ce que vous regardez encore des films sur DVD ?
Alors moi oui, parce que j'ai pas forcément de lecteur Blu-ray.
D'accord. Et sinon, aujourd'hui, sur quel type de support on regarde des films ?
Sur l'Internet.
D'accord, donc en fait maintenant, le support physique, c'est un peu comme la musique, hein, ça s'est dématérialisé. Vous écoutez sur quel support de la musique, vous, maintenant, par exemple ? Est-ce que vous écoutez sur CD ?
Non.
Non, maintenant.
Vous écoutez
sur quoi ?
Mon téléphone.
Eh ouais.
La radio, tout ça.
Donc en fait, ce qui s'est passé dans l'histoire, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est passé, par exemple, pour les supports de la musique, on est passé du vinyle. Vous voyez ce que c'est, le vinyle ?
Oui, ouais. Les gros disques là.
Le gros disque avec le diamant qui lit des sillons, hein, c'est quelque chose de très... On est dans du mécanique, de l'analogique. On est passé après... Qu'est-ce qu'il y a eu après le vinyle, à votre avis ?
Il y avait des tout petits disques.
Ah bon ?
Non ? C'est pas ça ? Ah voilà.
Voilà. Alors, il y a eu les 33 tours, les 45 tours. Ensuite, il y a eu les...
Les mini MP3, là, les cassettes.
Les cassettes. Et ensuite, on a eu le...
DVD.
Ouais, mais pour la musique, c'était le... Le CD.
Le CD, oui.
Voilà, il y a le CD. Vous, non plus, vous n'écoutez pas de CD.
Non.
Bah non. Et aujourd'hui, on est sur du... On est passé au numérique. Il n'y a plus de support matériel, en fait. Tout a été dématérialisé. C'est ça qui est important de savoir, parce que vraiment, nous... On stockait des objets physiques avec la musique. Un album égale un vinyle. Aujourd'hui, une clé USB égale on peut mettre 40 albums sur une clé USB, par exemple.
C'est ça.
Thank you, Teo, for talking about DVDs. And this is the end of the program.
Je m'appelle Romain et j'ai 11 ans.
Je m'appelle Elias et j'ai 13 ans.
Je m'appelle Mathis et j'ai 12 ans.
Vous êtes ici pour nous parler des jeux vidéo, toujours dans l'idée de donner des conseils. Donc vous, par exemple, quel est actuellement votre top 3 des jeux vidéo, le truc que vous adorez, les jeux auxquels vous adorez jouer en ce moment ?
FIFA, mais après je sais pas.
Bon, FIFA...
J'en ai qu'un seul jeu.
Mais c'est bien, il est bien, oui. T'aimes bien. Et toi ?
Fortnite, Undertale, je sais pas trop après.
Et toi ?
Fortnite, FIFA et Call of Duty.
Ok. Est-ce que vous... Ah bon, FIFA, je pense que tout le monde connaît ce jeu, hein. Ah non ? Ah tiens, alors pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi FIFA ?
Ben, c'est un jeu de foot.
Ouais.
Oui, t'as plusieurs compétitions.
Ouais.
Tu peux jouer en ligne avec d'autres personnes.
Et Fortnite, c'est quoi ?
C'est un Battle Royale. Donc, en gros, on est 100 sur une carte et c'est le dernier qui survit.
C'est un jeu de guerre ?
Oui.
D'accord. C'est un jeu de stratégie ou un jeu de baston, plutôt ?
Un peu les deux.
Un peu les deux. Et toi, du coup, tu m'as parlé de...
Call of Duty.
Call of Duty. Qu'est-ce que c'est, Call of Duty ?
C'est un jeu de guerre.
Ouais.
Et dessus, on est à la première personne. Et en fait, c'est le but de tuer le plus de gens.
Ça a l'air sympa, hein ? Bon mercredi après-midi. Du coup, est-ce que vous trouvez que c'est parfois trop violent ? Ah, pas pour FIFA, hein. On est d'accord. Hein.
Mais moi, du coup, je sais pas.
Donc, le but, c'est de tuer tout le monde, hein, Ouais. Alors, qu'est-ce que ça fait, vous, pour vous ? Pourquoi vous adorez ça ?
Je sais pas.
Tu sais pas ?
En fait, on peut faire des missions. Et il y a le dernier, c'est le... Ouais. On peut jouer, c'est sur la Deuxième Guerre mondiale.
C'est pour ça que tu joues à Call of Duty ? Parce que ça t'apprend des choses sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, toi ? Ah bon ? Bon, c'est quoi le but ? Pourquoi vous jouez à ces jeux vidéo de guerre ? Ou ces jeux vidéo ? Alors, c'est quoi pour vous quelqu'un qui joue trop aux jeux vidéo ? À partir de quand on joue trop aux jeux vidéo ?
Quand on fait rien d'autre.
D'accord. Maintenant, j'aimerais que vous me parliez un petit peu des classifications Peggy. Est-ce que vous jouez que à des jeux qui sont pour votre âge ?
Non.
C'est-à-dire ? Alors,
moi,
qu'est-ce
oui,
qu'est...
vu que j'en ai comme ça.
Oui, bah toi, FIFA, on aura compris. Quel jeu, par exemple, Call of Duty, il est
classé.
Il faut avoir plus de 18 ans, c'est ça ? Tu as 11 ans, c'est ça ?
Ouais,
12 ans. Et toi, quel jeu tu joues qui n'est pas de ton âge, tu penses ?
Assassin's Creed,
ouais. Ah oui. À votre avis, à quoi sert la classification Peggy ? Et est-ce qu'elle est vraiment utile ?
Ça dépend. Des fois, dans les jeux de guerre comme Call of Duty, tout ce qui est Fortnite, ça peut être utile parce que... on apprend quand même à se battre avec des armes, donc c'est vrai que c'est...
Ok, bon, admettons.
Mais il y a des jeux où il y a des Peggy qui servent à rien.
Oui. Ah, vous trouvez des fois que les Peggy sont pas adaptés au contenu, que c'est un peu exagéré, c'est ça ?
Des fois, il est marqué Peggy 3, mais en fait, quand t'as 3 ans, tu sais pas... C'est jamais compris pourquoi il existait, ce Peggy.
Bah d'ailleurs, vous trouvez que jouer aux jeux vidéo à 3 ans, qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est trop jeune.
À 3 ans, t'as pas le droit de regarder des écrans ?
C'était la règle des 3 ans. Enfin, c'est vrai, ça existe. C'est un psychologue, c'était une règle qu'il appelait comme ça. C'était 3, 6, 12. Et en fait, c'est 3 ans, 3, 6, 9, 12 plutôt. Et à 3 ans, voilà, t'as pas le droit de regarder des écrans. Donc, les jeux, non.
Est-ce que vous avez déjà eu la possibilité d'acheter des jeux vidéo qui n'étaient pas adaptés à votre âge ?
Oui, ben justement, par exemple, la dernière fois, j'étais à Micromania, par exemple, et je demandais un Call of Duty, le vendeur, il me l'a vendu. Ça forcément réussi large.
Peut-être qu'il a cru que tu avais 18 ans.
Non, moi je voulais vous poser la question, quand vous dites qu'à 3 ans vous comprenez pas qu'on puisse avoir des jeux vidéo, effectivement des enfants de 3 ans qui puissent être devant les écrans. Et moi ma question c'est comment vous pouvez jouer à des jeux comme Call of Duty qui sont interdits au moins 18 ans. Alors cela vous choque que des enfants de 3 ans puissent jouer à des jeux vidéo, chacun son avis, je suis assez d'accord avec vous. Mais ça vous choque au moins par contre de jouer à des jeux interdits au moins de 18 ans. Et il y en a qui jouent là déjà, vous là. C'est toi, Mathis, qui a dit que tu jouais déjà à Call of Duty. C'est interdit au moins 18 ans, non ? Et ça choque pas, par contre. Mathis, Call of Duty, comment tu l'as eu ?
Non, je l'ai pas eu. C'est que des fois, je vais chez des amis et j'y joue.
Des amis de ton âge ?
Oui.
Comment ils les ont eus ?
Je sais pas. Il a eu à son anniversaire, je crois.
Et toi, comment tu as eu accès à l'autre jeu, là, Assassin's Creed ?
Bon, en fait, mon cousin me l'avait passé avec sa console, donc...
D'accord, donc là, il n'y a pas eu à acheter en boutique ou à convaincre les parents.
Parfois, les parents, ils ne s'y connaissent pas, du coup...
La boîte, quand même, c'est pas idiot non plus.
Ouais. À votre avis, est-ce que la Peggy, elle est faite pour qui, en fait ? C'est pour...
Okay,
c'est...
Les parents, je pense. Plus pour les parents.
Ouais, je pense que c'est pour les parents.
Parce que vous, de toute façon, si c'est marqué moins 16 ou moins 18, ça vous donne envie de faire quoi ?
Du jouer.
Ah oui, vous êtes des ados, évidemment. Et alors, qui pourrait aussi peut-être conseiller ou aider dans ces cas-là ? Donc, si on dit, peut-être les parents, ils y connaissent rien, donc ils se font avoir. C'est votre théorie, vous ?
La boîte.
Du jeu. Ouais. Ah, tu penses qu'il faudrait mieux expliquer, dire ce jeu a du contenu violent, donc...
C'est marqué dans l'an dernier.
D'accord.
Toujours des petits logos violents, je crois que c'est une araignée, enfin il y a plein de petits logos.
Un point.
Non, c'est peur, une araignée, violence, un point. Y a...
Donc ça, vous pensez qu'il faut s'y référer avant de choisir un jeu. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire du côté des magasins, justement?
Non, ils s'en fichent parce que du moment qu'ils ont de l'argent, après ils sont... Et puis même, je pense que pour eux, c'est normal que les ados ils jouent à des jeux comme ça, quoi, je pense pour eux.
Mais il y a d'autres jeux qui sont très adaptés à votre âge, mais c'est rarement ceux qui ont le plus de succès. Quel jeu à contenu non-violent marche un petit peu en ce moment? Donc il y a FIFA, t'as dit.
Après, quand les vendeurs ils te les vendent, ils peuvent pas savoir si c'est pour toi.
Ah. C'est dur, hein.
Ben ouais.
Ben moi, on m'avait dit que GTA c'était bien, j'ai voulu l'acheter, mais le vendeur il m'a dit non.
Ah, bon.
Parce que j'avais trop d'écart entre l'âge déconseillé et l'âge que...
D'accord, donc là, le vendeur, il a fait un job de prévention, enfin, même plus que ça, il t'a dit, non, je ne te vendrai pas ce jeu-là. Ok, donc comme quoi, il n'y a pas que l'argument de les vendeurs qui veulent se faire de l'argent. Dernière petite question pour vous, est-ce que, du coup, à partir de quel âge vous pensez qu'on peut commencer à jouer aux jeux vidéo? Est-ce qu'il y a un âge limite en tant que petit, en tant qu'enfant? Là, vous disiez, vous avez l'air de réagir sur le fait qu'à 3 ans, c'est trop jeune. Alors, ce serait quoi? À partir de quel âge on peut offrir une première console?
Oui, vers 4 ans, parce que vers 1 an, 2 ans, 3 ans, tu t'abîmes les yeux, c'est pas bien.
4 ans, tu sais pas jouer, je sais pas.
Alors, on est quand même sur les débuts de la motricité à 4 ans. Hein. Vous êtes sur des âges tout petits.
Ben oui, moi, je dirais plutôt vers les 6-7 ans.
6-7 ouais, ouais. ans.
Comme mon frère.
Moi, 10 ans.
10 ans, j'ai entendu 10 ans. Et bon, là, c'est très masculin autour du micro, mais est-ce que vous, les filles, vous jouez un peu aux jeux vidéo? Est-ce qu'il y en a qui jouent, là?
Oui.
Oui, à quoi?
Un peu de tout, en fait.
Pareil que les garçons, t'aimes bien les jeux qui sont pas adaptés à ton âge, tu trouves ça sympa?
Je joue aux jeux de combat, mais quand on joue à deux, en fait. Par exemple, Street Fighter, par exemple. Sinon... Je joue pas énormément, je joue des mots en fait, j'écoute plus de la musique.
Ok, on a remarqué hein, déjà que les usages n'étaient pas exactement les mêmes sur internet ou par rapport aux écrans entre filles et garçons. Mais ceci dit, il y a aussi plein de filles qui adorent les jeux vidéo. Hein. Toi, tu joues un petit peu?
Bah, c'est des jeux vidéo, mais bon, c'est la Wii.
Eh B, c'est un jeu vidéo non quand même?
Console.
Ah, c'est une console, oui, oui. Plutôt toute seule ou avec des copains, copines?
Avec des amis.
Les jeux vidéo, hein, je tiens à le dire, c'est la première industrie culturelle au monde. C'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a un réel engouement et il y a plein de bonnes choses dans les jeux vidéo. Hein. C'est aussi un moment de se rassembler autour, parfois en famille. Vous jouez certains en famille à des jeux vidéo? Bah oui.
Parfois.
Ça dépend.
Ça date de quand, à votre avis, la première console? Elle a été créée quand?
2006.
2012.
1876.
J'adore.
1876,
première console
sortie. C'est précis, hein.
Non, qui a une idée? Quelle pourrait être la première console qui est sortie?
1950.
Ouais, quand même pas. J'aime bien, on dirait le juste prix, vous me dites un peu n'importe quoi, au pif, ça va peut-être passer.
Moi, je pense en 1900.
Alors, les garçons, la bonne réponse? Combien? Tu le dis au pif ou t'as la bonne... ou t'as une info? Ok. Alors, c'est un peu plus... C'est les bornes arcades, en effet. On serait dans les années 60-70, plutôt 70 quand même, avec du Atari, hein.
Ouais.
Années 60. Ah oui, Pong, les tout premiers Pong, ouais. Ça, c'était les jeux d'arcade, années 60-70. Et par contre, la console familiale, c'est quand est-ce qu'elles sont arrivées, les premières consoles dans les familles? On était sur du Sega, du Nintendo.
Je dis 90.
85, 90, voilà. Donc, par exemple, moi, je fais partie des premières générations qui ont eu les jeux vidéo à la maison. Et après, vous, maintenant, je sais pas combien vous avez de consoles chez vous.
Une.
Une.
Console.
Trois.
Enfin, le PC et le téléphone, on ne qualifie pas ça comme console.
Si, de support de jeu, alors.
Cinq.
Cinq, ouais. Quatre.
Du coup.
Combien vous avez de consoles chez vous?
Six.
Six.
Quatre. Trois. Ah ben, dis donc. Deux, normal. Trois. Huit consoles. Quatre. Ok. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la vague est à des jeux... vous connaissez les jeux pédagogiques, par exemple? Est-ce que vous avez déjà joué à ça, des jeux en lien avec l'école?
Oui. Moi, c'était à l'école que j'y ai joué, en fait.
Quoi?
À Matumato, c'est un truc de maths.
Ouais. Est-ce que vous avez déjà vu des usages, par exemple, de Minecraft dans l'éducation?
Je sais qu'il existe, mais j'ai jamais vu vraiment.
Vous pensez que ça pourrait... Vous pensez que ça pourrait vous motiver, vous, si on utilisait des jeux, le système des jeux vidéo ou des systèmes d'escape game pour, dans l'apprentissage?
C'est stylé, ça.
Ouais. Bon, ça existe déjà. Hein. Ouais, ça peut pas encore dans votre collège, parlez-en à vos profs, oui. Mais ça se fait. Qu'est-ce qu'on pourrait dire alors? Quel message on pourrait passer, du coup, à vos petits frères et à vos petites sœurs? Si vous deviez leur conseiller un jeu, vous leur conseilleriez quoi? Comme jeu, du coup, on va dire pour des moins de 7 ans, quel jeu on pourrait conseiller?
Mario.
Mario? Mario en indémodable.
Mario, Pokémon.
FIFA.
FIFA, ouais, c'est un peu stratégique quand même, 7 ans. Hein.
Moi, FIFA, parce que mon frère me bat déjà 11 à 2. Donc...
Et vous, les garçons? Pac-Man.
Ouais, faut l'avoir. Il faut l'avoir.
Vieux jeu. Ouais.
Gran Turismo.
Gran Turismo. Oh, c'est adapté ou...
Bah, t'as juste à faire ça. Une voiture. Ouais. Et toi, qu'est-ce
que tu conseilles?
Minecraft.
Minecraft, ouais, pourrait marcher en effet.
C'est un jeu de...
Vous auriez une idée?
72.
Mario. 72. C'est les indémodables du coup. Très bien. 72. On va arrêter là pour cette interview. Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Bonjour Céline et Sophia.
Bonjour.
Je sais que vous avez fait des recherches sur un réseau social en particulier et j'aimerais savoir lequel.
Sur Instagram.
J'aimerais savoir qui a créé ce réseau social.
Instagram a été fondé par Kevin Systrom. Il a fait des études à l'université Stanford, qui à ce moment, son propriétaire est Facebook.
Merci. J'aimerais savoir aussi, quand est-il sorti?
Instagram est apparu le 6 octobre 2010.
À quoi sert Instagram?
Instagram est un réseau social et un service de partage de photos et de vidéos. C'est une application utilisée à partir de 13 ans. Instagram revendique plus de 6 millions d'utilisateurs à travers le monde.
Impressionnant! Et si par exemple je veux avoir Instagram, comment je fais et comment ça marche?
Alors, pour avoir Instagram, il faut créer un compte. Et sur ce compte, on peut mettre des photos ou des vidéos. Les personnes qui les voient peuvent liker, commenter et même s'abonner.
Merci d'avoir répondu à mes questions.
C'était les infos de Instagram.
Aujourd'hui, on va vous parler de Napster.
Napster est un magasin de musique en ligne qui était à l'origine un pionnier des services de partage. Il est en France, en Angleterre et en Amérique. Il a été créé en juin 1999.
Qui l'a créé?
Sean Fenning et Sean Parker. À quoi ça sert?
Écouter de la musique et de la radio en illimité.
Aujourd'hui, on est en compagnie de Charlie. Bonjour Charlie. Bonjour. Et il va nous parler du premier iPhone. Alors, Charlie, j'aimerais savoir quand le premier iPhone est sorti.
Alors, il est sorti le 29 juin 2007.
Et combien il y a eu de ventes d'iPhone?
Aujourd'hui, on estime à un peu plus d'un milliard d'iPhone vendus dans le monde.
Quel est le premier iPhone et où il a été inventé et par qui?
Il s'appelle l'iPhone Edge. Il a été inventé par Steve Jobs, le directeur d'Apple.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
Bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit Romain et Thomas. Donc aujourd'hui ils vont nous parler du téléphone. Donc quand c'est qu'il a été inventé, par qui, pourquoi et comment?
Donc voilà, le téléphone, il a été inventé en 1876 par Alexander Graham Bell aux États-Unis. Graham Bell commence à s'intéresser aux recherches sur la transmission de la voix à distance. Donc c'est-à-dire qu'il cherchait à savoir comment faire des sortes de téléphones portables sans fil. Voilà.
Est-ce que tu sais pourquoi il a inventé ça?
Ben oui, c'est pour communiquer avec des gens qui sont à distance, qui ne sont pas à leur portée, et voilà.
D'accord. Selon toi, Thomas, à quoi il ressemblera le téléphone du futur, d'ici 2020, 2025, par là?
Ben, je pense qu'il pourrait se plier et devenir invisible.
Devenir invisible, c'est quand même un peu compliqué, non? Tu ne penses pas? Encore se plier, je veux bien, mais quand même, devenir invisible, quand même, on ne connaît pas ça encore. Hein.
Mais si on rêve, toi, t'aimerais quoi? Qu'il soit comment ton téléphone du futur?
Ben moi, un téléphone moyen, de taille à peu près comme l'iPhone 5 en ce moment, qui peut se plier et voilà, et qui peut se transporter partout. Enfin, je m'en moque un peu en fait, du moment que j'en ai un. Moi, ce qui serait bien, je pense, c'est des téléphones de taille raisonnable comme l'iPhone 5 que j'ai dit tout à l'heure, mais style des téléphones de chantier qui sont quasiment incassables, que tu peux emporter partout et voilà.
parce qu'ils sont cassables facilement, les iPhones. Les Samsung aussi.
Et après, il faut acheter une coque qui coûte 100 euros pour pouvoir le bien protéger, tout ça.
Rhinoshield.
Mais est-ce que vous pensez qu'ils pourraient faire simplement des téléphones plus solides à la base?
Oui. Oui, mais ça en existe déjà, donc il faudrait juste qu'ils en créent plus et que les gens en achètent.
Après, les marques, c'est juste qu'ils ont besoin d'argent, quoi. C'est l'argent qui passe avant tout, c'est pas forcément la qualité, quoi.
Malheureusement. Vous savez comment se fabrique un téléphone portable, vous? Vous savez ce qu'il y a dedans?
Oui.
Vas-y.
Il y a des cartes électroniques avec des puces. Des électroniques.
Des circuits imprimés.
Oui, imprimés et aussi du cuir. Dans les cartes électroniques.
Du cuivre, non, plutôt.
Oui, du
cuivre, ouais. Il y a des métaux, en effet, il y a des métaux précieux. Il va y avoir de l'or, du cuivre, il va y avoir aussi d'autres types de métaux.
Carte mère, c'est ça qui coûte le plus cher, en fait, sur un téléphone.
Oui.
Ce qui vaut son prix, en fait, quasiment.
C'est déjà des mini-ordinateurs portables, en fait.
Bah, quand on se dit que, allez, dans les années 60, les ordinateurs qui étaient énormes, qui prenaient la taille d'une pièce, maintenant, ils tiennent seulement dans nos téléphones. On peut se dire qu'au niveau du progrès, ça continue, quoi. Que bientôt, on aura plus petit, mais sera toujours plus puissant, quoi.
C'est ça. Il y a une miniaturisation des éléments.
Et par contre, pour les téléphones iPhone de marque Apple, en fait, plus on avance, plus ils grossissent et il va falloir arrêter un jour. Parce que...
Monsieur n'est pas d'accord. Hein. Monsieur, il en a marre des gros téléphones. Hein.
Je crois bien, oui.
Parce que c'est un bol avec des trucs comme ça, là.
En tout cas, félicitations pour vos recherches. C'était très intéressant. Et puis, on verra en 2020, 2025, s'ils feront enfin voler les téléphones portables.
Bon, merci à vous d'être venus et d'avoir participé avec nous.
Merci.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
La cascade de l'info.
Écran, mon bel écran, est une émission en deux parties réalisée avec les jeunes de la MJC du Lerm en juillet 2018 à l'issue d'un atelier de 4 jours qui s'est fini en beauté avec la visite de Radio Galaxie. Cet atelier a été mené par l'association Médias Communs Occitanie avec la complicité de toute l'équipe de la MJC du Lerm. Retrouvez cette émission en deux parties sur ondescourtes.fr et sur Radio Galaxie. Cette émission est placée sous licence Creative Commons, paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale. Toutes les musiques qui ont servi pour l'habillage sonore sont également placées sous licence libre.